Menaces, tortures, licenciements. Comment le commandant Lomtage sème le chaos sur les sites miniers de Rongi et Gobolo sous prétexte de chasse aux informateurs du CNC. Par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, CNC. Le commandant Lomtage, directeur de sécurité d'IMC, multiplie d'une manière violente les descentes musclées et accuse n'importe qui d'être des informateurs de Corbeau News Centrafrique. Depuis plusieurs semaines maintenant, le commandant Lomtage des forces armées centrafricaines ne se contrôle plus. Dès qu'il entend parler de publications sur Corbeau News Centrafrique, la panique le gagne. Il voit des informateurs partout, dans chaque ouvrier, derrière chaque téléphone portable. L'homme qui dirige la sécurité des installations minières chinoises d'IMC est devenu obsédé par cette chasse. Il passe d'un site à l'autre, de Gobolo à Rongi, de Yaloké aux autres bases, toujours à la recherche du coupable qu'il ne trouve jamais vraiment. Cette histoire commence bien avant les événements du 25 décembre à Rongi. Il faut remonter à une première intervention pathétique et musclée du commandant qui avait déjà quitté Gobolo, la base principale située à une dizaine de kilomètres de Rongi. Ce jour-là, il s'était rendu directement au site de Rongi le 5 décembre 2025 pour une réunion qu'il disait importante. Les ouvriers s'étaient rassemblés comme on le leur demandait, sans se douter de ce qui allait se passer. Le commandant est arrivé à Rongi vers 16h. Il a fait rassembler tous les employés du site sans exception. Ouvriers, chauffeurs, personnels de tous niveaux ont été convoqués. Il parlait d'une réunion de travail. Personne ne pouvait refuser, personne n'imaginait ce qui allait suivre. Dès le début, l'atmosphère était pesante. Le commandant Lomtage avait ce regard dur, cette tension dans la voix qui annonçait quelque chose de grave. Il a commencé par ordonner la confiscation de tous les téléphones portables de chaque employé. Pas d'exception, pas de discussion possible. Un par un, chaque employé a dû remettre son appareil. Les téléphones s'empilaient devant lui. Il voulait fouiller leur contenu, traquer ceux qui lisaient les articles de Corbeau News Centrafrique, ceux qui suivaient les publications, ceux qui pouvaient avoir des contacts avec la rédaction. L'inspection a commencé méthodiquement. Le commandant Lomtage passait d'un téléphone à l'autre, ouvrait les applications, parcourait les messages, scrutait les photos. Il cherchait une preuve, n'importe laquelle, qui lui permettrait d'identifier les traîtres. Dans sa tête, quelqu'un sur ce chantier avait forcément livré des informations à la presse. Il était convaincu que les journalistes ne pouvaient pas connaître tous ces détails sans l'aide d'employés du site. Mais la surprise arrive. Dans les téléphones de deux ouvriers, il a trouvé ce qu'il cherchait. Les articles de CNC étaient là, consultés, peut-être même sauvegardés. Pour ces deux hommes, ce moment a marqué le début d'un cauchemar de leur vie. Le commandant Lomtage les a désignés publiquement devant toute l'assemblée. Sa voix tremblait de colère. « Vous m'avez trahi, vous avez raconté des choses à mon nom à Corbeau News Centrafrique, les journaux de CNC. C'est à cause de vous qu'on m'a convoqué à Bangui. » Les accusations fusaient maintenant. Le commandant hurlait. « On m'a convoqué deux fois à Bangui, deux fois. Mais ils se sont trompés, ils ne vont rien me faire. Je suis officier supérieur, je suis commandant. Rien ne va m'arriver, rien. » Puis, sans prévenir, il s'est jeté sur les deux ouvriers. Il les a plaqués au sol avec violence. Cet homme qui affirmait publiquement n'avoir jamais frappé personne de toute sa vie, qui disait n'avoir jamais connu la bagarre même dans sa jeunesse, s'est transformé en bandit du grand chemin d'une férocité inouïe. Les coups ont commencé à pleuvoir, des coups de poing, des coups de pied, sans retenue, sans limite. Les deux hommes au sol tentaient de se protéger la tête, de rouler sur le côté, mais le commandant continuait, acharné, possédé par une fureur vengeresse. L'assemblée assistait à cette scène dans un silence glacé. Personne n'osait bouger. La terreur paralysait tous les témoins. Il voyait le chef de sécurité d'IMC, un officier supérieur de l'armée nationale, torturer deux de leurs collègues en plein jour, devant tout le monde, sans la moindre gêne. Le tabassage a duré plusieurs minutes. Entre les coups, le commandant continuait de hurler ses accusations, ses menaces, ses justifications. « Vous allez voir aujourd'hui ce qui arrive quand on raconte des choses à mon nom. Vous allez regretter d'être né. » Après ce premier épisode, les semaines ont passé dans une tension permanente. Les ouvriers travaillaient en regardant par-dessus leur oreille, en faisant attention à leur conversation, en cachant leur téléphone. L'information circulait discrètement. Le commandant cherchait des traîtres, des gens qui parleraient aux journalistes. Chacun essayait de rester invisible, de ne pas attirer l'attention sur lui. Puis est arrivé le 25 décembre dernier, et avec lui une nouvelle descente du commandant à Rongi. Cette fois, l'objectif affiché était différent. Les élections se profilaient pour le 28 décembre et beaucoup d'ouvriers souhaitaient rentrer chez eux pour voter. Les Chinois d'IMC ne voulaient pas arrêter la production, même pour une journée.
Le commandant devait convaincre les travailleurs de rester sur place. Il avait donc organisé une réunion générale à Ranji. Son discours initial portait sur une prime d'encouragement que les Chinois verseraient à ceux qui accepteraient de travailler le jour des élections. Les ouvriers écoutaient, certains semblaient accepter la proposition, d'autres calculaient mentalement si cette prime en valait la peine. L'atmosphère semblait encore presque normale, presque professionnelle. À la fin de son intervention, le commandant avait demandé si quelqu'un voulait prendre la parole pour ajouter quelque chose. Un chauffeur congolais avait levé la main. L'homme voulait simplement parler d'un problème récurrent, les demi-journées que les Chinois comptabilisaient, même quand ce n'était pas la faute des ouvriers. Un véhicule tombait en panne et hop, la journée était comptée comme une demi-journée de travail. Un accident survenait et le salaire était coupé sans explication satisfaisante. Le Congolais expliquait calmement son souci, espérant peut-être que le commandant pourrait intercéder auprès des Chinois. Mais dès que l'homme a terminé sa phrase, tout a basculé. Le commandant s'est levé d'un bond, comme si on venait de l'attaquer. Il s'est jeté sur le chauffeur congolais en criant qu'il le dérangeait trop, qu'il faisait toujours des problèmes, qu'il parlait trop. Il a attrapé le Congolais par la chemise, le tenu au cou devant tous les autres, sa voix tremblait de colère tandis qu'il hurlait des accusations incompréhensibles. Puis il a appelé ses soldats pour emmener le chauffeur, avant de changer d'avis brutalement et d'ordonner qu'on le ramène. Cette indécision nerveuse montrait à quel point il perdait pied. Il a alors ordonné qu'on force le Congolais à s'asseoir sur un tas de sable qui se trouvait là. L'homme s'est exécuté sous les regards horrifiés de ses collègues. Tout le monde se taisait maintenant. La réunion avait pris une tournure cauchemardesque que personne n'avait anticipée. Le commandant tournait en rond, gesticulait, continuait de crier. Quand la réunion s'est terminée, le commandant a désigné trois personnes qui devaient rester. Le chauffeur congolais qu'il venait d'humilier publiquement, un autre chauffeur centrafricain et un mécanicien. Il leur a dit de l'attendre, qu'il devait encore leur parler. Les autres ouvriers sont partis sans mots, trop effrayés pour protester ou pour demander quoi que ce soit. Les trois hommes ont été conduits sous un hangar où le commandant venait souvent de se reposer. Ils attendaient, ne sachant pas vraiment ce qui allait suivre. Quand Lamtagé est arrivé, il a immédiatement demandé leur téléphone. Il voulait les fouiller un par un. Selon lui, c'était forcément l'un d'eux qui envoyait des informations à Corbeau News Centrafrique et qui causait ses convocations à Bangui. Il a commencé par le téléphone du Congolais. Il a ouvert WhatsApp, a écouté tous les messages vocaux, a parcouru les conversations, a scruté les photos. Il cherchait une preuve, n'importe laquelle, qui lui permettrait d'identifier les traîtres. Dans sa tête, quelqu'un sur ce chantier avait forcément livré des informations à la presse. Il était convaincu que les journalistes ne pouvaient pas connaître tous ces détails sans l'aide d'employés du site. Mais la surprise arrive. Dans les téléphones de deux ouvriers, il a trouvé ce qu'il cherchait. Les articles de CNC étaient là, consultés, peut-être même sauvegardés. Pour ces deux hommes, ce moment a marqué le début d'un cauchemar de leur vie. Le commandant Lamtagé les a désignés publiquement devant toute l'assemblée. Sa voix tremblait de colère. « Vous m'avez trahi, vous avez raconté des choses à mon nom à Corbeau News Centrafrique, les journaux de CNC, c'est à cause de vous qu'on m'a convoqué à Bangui. » Les accusations fusaient maintenant. Le commandant hurlait. « On m'a convoqué deux fois à Bangui, deux fois. Mais ils se sont trompés, ils ne vont rien me faire. Je suis officier supérieur, je suis commandant, rien ne va m'arriver, rien. » Puis, sans prévenir, il s'est jeté sur les deux ouvriers. Il les a plaqués au sol avec violence. Cet homme qui affirmait publiquement n'avoir jamais frappé personne de toute sa vie, qui disait n'avoir jamais connu la bagarre même dans sa jeunesse, s'est transformé en bandit du grand chemin d'une férocité inouïe. Les coups ont commencé à pleuvoir, des coups de poing, des coups de pied, sans retenue, sans limite. Les deux hommes au sol tentaient de se protéger la tête, de rouler sur le côté, mais le commandant continuait, acharné, possédé par une fureur vengeresse. L'assemblée assistait à cette scène dans un silence glacé. Personne n'osait bouger. La terreur paralysait tous les témoins. Il voyait le chef de sécurité d'IMC, un officier supérieur de l'armée nationale, torturer deux de leurs collègues en plein jour, devant tout le monde, sans la moindre gêne. Le tabassage a duré plusieurs minutes. Entre les coups, le commandant continuait de hurler ses accusations, ses menaces, ses justifications. « Vous allez voir aujourd'hui ce qui arrive quand on raconte des choses à mon nom. Vous allez regretter d'être né. » Après ce premier épisode, les semaines ont passé dans une tension permanente. Les ouvriers travaillaient en regardant par-dessus leur oreille, en faisant attention à leurs conversations, en cachant leur téléphone. L'information circulait discrètement. Le commandant cherchait des traîtres, des gens qui parleraient aux journalistes. Chacun essayait de rester invisible, de ne pas attirer l'attention sur lui. Puis est arrivé le 25 décembre dernier, et avec lui une nouvelle descente du commandant Arondji. Cette fois, l'objectif affiché était différent. Les élections se profilaient pour le 28 décembre et beaucoup d'ouvriers souhaitaient rentrer chez eux pour voter. Les Chinois d'IMC ne voulaient pas arrêter la production, même pour une journée. Le commandant devait convaincre les travailleurs de rester sur place. Il avait donc organisé une réunion générale à Ranji. Son discours initial portait sur une prime d'encouragement que les Chinois verseraient à ceux qui accepteraient de travailler le jour des élections. Les ouvriers écoutaient, certains semblaient accepter la proposition, d'autres calculaient mentalement si cette prime en valait la peine. L'atmosphère semblait encore presque normale, presque professionnelle. À la fin de son intervention, le commandant avait demandé si quelqu'un voulait prendre la parole pour ajouter quelque chose. Un chauffeur congolais avait levé la main. L'homme voulait simplement parler d'un problème récurrent, les demi-journées que les Chinois comptabilisaient, même quand ce n'était pas